Lorsque nous commençons à énumérer les bienfaits de Dieu, nous commençons à voir la grandeur de sa personne, son amour, sa puissance, sa patience. Ah, n'est-ce pas, c'est telle chose que Dieu fait pour nous en disant, ah, on reconnaît que on n'est pas vraiment digne, mais Dieu l'a fait pour moi. Dieu a eu de la patience, Dieu a eu de la bonté envers moi. Au travers des actes de Dieu, nous voyons sa gloire, sa majesté, sa justice aussi, sa sainteté, etc. Et plus nous le remercions et le louons, plus il nous révèle son caractère, plus il manifeste sa puissance et son amour envers nous. Et nous sommes transformés par cela. Plus nous le louons, plus nous l'adorons, et plus nous l'adorons, et plus nous voyons comment ce Dieu-là est vraiment grand. Il est vraiment merveilleux. Plus nous savons comment l'adorer, et plus des choses extraordinaires se passent dans nos vies. Car nous sommes de plus en plus unis avec Dieu. Et c'est ça aussi l'adoration. Être uni avec Dieu. Être un avec Dieu. L'adoration, c'est vraiment être face à face avec Dieu. Et le contempler. On arrive à un moment tel dans l'adoration que, à un moment donné, les mots ne sont même plus nécessaires. On est là, on contemple le Seigneur. Et on découvre qui est le Seigneur. Et je me rappellerai toujours de ce que ce professeur a dit au moment où je faisais ma maîtrise à l'école biblique. Il disait, ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que parfois avec un être humain, bon, par exemple, il prenait l'exemple des stars de Hollywood. Il y a ce qu'on appelle les idoles. Alors, on idolâtre, je pourrais dire, quelqu'un. Mais au moment, plus on s'approche, et là, on commence à découvrir de petits défauts. Ah, ok, des choses qu'on ne voyait pas. De loin, c'est splendide. Hein? Mais plus on approche, on découvre des choses, hein, des petits défauts. Mais la différence avec le Seigneur, c'est que plus on s'approche de lui, plus on est ébloui, plus on est émerveillé. Il n'y a pas de déception. Alléluia. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de petite tâche. Ah, ça, je n'avais pas vu. Non, il est extraordinaire. Donc, l'adoration, c'est vraiment contempler le Seigneur, s'approcher de lui. J'ai parlé de remerciement. J'ai parlé de louange. Mais dire merci à quelqu'un, lui montrer sa gratitude, c'est bien. Mais dire à quelqu'un qu'il est formidable, que tu l'apprécies, que tu l'aimes, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Et c'est ça l'adoration. Donc, en commençant à remercier le Seigneur, à le louer pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est, et là, on découvre vraiment la magnificence du Seigneur, et on lui dit, Seigneur, je t'adore. Comme nous avons chanté, Dieu merveilleux. Dieu merveilleux. Et plus nous célébrons ce Seigneur-là, eh bien, plus nous découvrons qui il est. Je me rappelle cette histoire, on me l'a raconté, je n'étais pas présent. Tout près de l'école biblique à Saint-Petersleu, certains connaissent le Saint-Petersleu, tout près de l'école biblique, il y a une belle maison, en fait, qui ressemble à un château. Et un jour, donc il y avait des Américains qui passaient par là et qui ont vu cette belle maison. Ils disaient, oh là là, quelle belle maison. Et alors le propriétaire de la maison, il a vu ces Américains, ces touristes qui étaient vraiment impressionnés par sa maison. Il disait, oh, vous aimez la maison? Entrez, je vais vous montrer l'intérieur. C'était extraordinaire. Il s'émerveillait de l'extérieur, à l'intérieur c'était encore plus merveilleux. Et c'est comme ça l'adoration. On commence et le Seigneur dit, viens, je vais te montrer aussi l'intérieur. Je vais te montrer aussi l'intérieur. Ça c'est la nature de l'adoration. Maintenant, quels sont les bienfaits de l'adoration? Si adorer c'est entrer dans la présence de Dieu, adorer, c'est aussi Dieu qui vient à nous, en réponse à notre démarche. C'est comme je disais à cet homme qui a vu ces touristes, et il disait, viens. Donc Dieu répond à notre démarche. Et lorsque Dieu vient, il se passe des choses. Voyons un peu certaines de ces choses qui arrivent lorsque Dieu vient. Eh bien, il y a joie et paix. Et aussi guérison spirituelle, morale, émotionnelle, physique. Paul écrivait aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Des fois, tu peux être angoissé, parfois pour rien du tout, parce que simplement c'est le diable qui veut mettre dans ton cœur l'angoisse, la peur. Et quand tu entres dans la présence de Dieu, eh bien, c'est évanoui. Amen. C'est évanoui. C'est comme ce psalmiste, quand il enviait les méchants, parce qu'il disait, oh, on dirait que rien ne leur arrive. Asaph. Psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. Et la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants, le Saint-Esprit qui est en toi, qui ne veut pas partir, qui te dit non, tu ne peux pas faire comme eux. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que, alléluia, jusqu'à ce que jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Il était troublé, bouleversé, perplexe, jusqu'à ce qu'il entre dans la présence de Dieu. Voilà, donc les bienfaits de l'adoration, c'est joie et paix, guérison spirituelle, guérison morale, guérison physique. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, victoire sur les puissances des ténèbres. Deux Chroniques 20, verset 1er. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Amen. Verset 6. Et il dit, Éternel, il dit, il reconnaît Dieu pour qui il est. Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Il faut se souvenir de qui est notre Dieu. Amen. Quand les circonstances changent, quand il y a des bouleversements, il faut se rappeler de qui est notre Dieu. Amen. Dieu le sait, mais nous devons le dire pour nous le rappeler à nous-mêmes. Quand Jésus priait, il dit, Père, je dis cela, c'est pour eux que je dis cela. Je sais que tu m'exauces toujours, mais je le dis pour eux. Et donc, il y a des proclamations que nous devons faire aussi. Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines? C'est pas eux qui dominent, mais c'est toi. C'est toi qui domines sur tous les royaumes des nations. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kehathites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quelle tactique bizarre! Il y a l'ennemi qui avance, nous on va louer l'Éternel. C'est ce qu'ils ont fait. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres, des chanteurs, qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent et qu'ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Il louait le Seigneur et le Seigneur a fait le travail. Verset 25. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours. 3 jours. Au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Béraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Béraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Béraka, c'est-à-dire bénédiction. Hein? Donc, non seulement Dieu leur a donné la victoire, mais Dieu leur a donné un butin extraordinaire, et il leur a fallu 3 jours pour récolter ce butin. Et je parlais de joie et paix. Regardez ce qui est écrit au verset 27. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem ayant à leur tête Josaphat partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entraient à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen. L'ennemi, ou nos ennemis, l'ennemi de manière générale, a ses armes, ses armes, mais nos armes sont les armes spirituelles. Nous ne pouvons pas, comment est-ce que je pourrais dire, comme disait Martin Luther King, on ne peut pas combattre la haine par la haine. Il disait, les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. Il n'y a que la lumière qui puisse chasser les ténèbres. Donc nos âmes sont des âmes divines, des âmes spirituelles. Nous ne pouvons pas répondre à la violence par la violence. Nous devons faire confiance à notre Dieu. À ce propos, je peux donner un petit témoignage. Il fut un temps, donc, quand j'étais responsable du ministère pour hommes, et à un moment donné, donc en fait, la personne en question, c'est lui qui est venu témoigner cela, me dire cela en personne, parce que je n'étais même pas au courant. Donc, je faisais une réunion pour les hommes, et à un moment donné, il y avait un élément donc dans l'assistance qui voulait carrément perturber la réunion. Et alors, il voulait poser des questions un peu bizarres, justement, pour troubler, perturber la réunion. Et alors, au moment où il voulait poser sa question, d'une manière étrange, il s'est écroulé par terre. Et après, il est venu, il dit, écoute, Martin, vraiment, le Seigneur m'a puni parce que je voulais troubler la réunion. Je voulais poser une question bizarre, étrange, mais au moment où j'ai voulu faire ça, je suis tombé par terre. J'ai dit, bon, voilà, le Seigneur est grand. Donc, le Seigneur est capable de combattre pour nous. En fait, c'est ça le point. Donc, entrons dans sa présence et remettons-lui tout. Le troisième bienfait ou conséquence qu'on peut dire aussi de l'adoration, c'est que il y a la conviction des péchés et aussi la sanctification. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 6, il est écrit ceci, « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Ici, c'est Ésaïe qui parle. « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face et 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Et les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, face à cette sainteté, Esaïe se dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Vous savez, on se croit quelque chose, on se croit bon jusqu'au moment où on entre dans la présence du Saint. Là, on réalise qu'on n'est rien. Quand on est face aux autres, les hommes, on peut dire, ah oui, moi, écoute, hein, je ne suis pas criminel comme lui, je ne suis pas menteur comme lui, je n'ai pas fait autant de bêtises, je n'ai pas fait autant, ah, moi, je suis bien. Ça tient jusqu'à ce que on entre dans la présence de Dieu et là, on reconnaît, on n'est rien du tout. Amen. Et donc, c'est ce qui est arrivé à Esaïe. Malheur à moi. Je suis perdu car je suis un homme dont les... Donc, le Saint-Esprit l'a convaincu. Mais gloire à Dieu, il n'y a pas que seulement cette conviction du péché, mais il y a aussi le remède qui vient avec. Amen. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alléluia. Donc, le Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui nous sanctifie, qui nous purifie. Et c'est pour cela que nous pouvons nous approcher en toute confiance du trône de grâce. Donc, dans sa présence, il y a la conviction du péché et aussi la sanctification. Et c'est ce qui nous aide aussi à aller de l'avant. Et quatrièmement, je dirais aussi, il y a appel et puissance pour le ministère. Toujours dans Esaïe 6, eh bien, après avoir été sanctifié, purifié, que dit Esaïe? J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Donc, face à la présence de Dieu, Esaïe dit, je suis, envoie-moi Seigneur. Et c'était extraordinaire d'entendre le témoignage des jeunes. C'est la petite Denisa, c'est ça? Elle dit donc elle veut servir le Seigneur de manière plus intense. Parce qu'elle a vécu quelque chose dans la présence du Seigneur. Amen. Quand on a vécu quelque chose, on dit, ah Seigneur, je veux aller. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Et c'est bien que les jeunes expérimentent cela. Et moi, comme je vous l'ai dit personnellement, donc quand j'ai commencé le ministère après... quand je suis sorti de l'école biblique et que j'ai, en fait, de manière officielle, commencé le ministère, il y a eu tellement d'épreuves et que j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas retourner en arrière parce que j'ai vu tellement de choses. Tu as fait tellement de choses pour moi, j'ai vécu tellement de choses avec toi. Et donc, c'est ça qui nous aide à aller de l'avant. Donc, lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, eh bien, non seulement il nous donne cet appel, mais il nous donne aussi la puissance pour aller de l'avant. Quand Dieu a appelé Paul, il a dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Il témoignera pour moi, non seulement devant les Juifs, mais devant les nations, devant des rois, et etc. Et il lui a promis qu'il sera là avec lui. Et c'est pour ça que Paul a pu continuer jusqu'à la fin. Parce qu'il a vu le Seigneur. Amen. Et nous devons tous voir le Seigneur. Nous devons tous entrer dans sa présence. Et c'est dans sa présence qu'il y a ce baptême de l'Esprit Saint. La sœur Camille a témoigné qu'elle est rentrée chez elle, elle voulait en plus. Le Seigneur l'a baptisé du Saint-Esprit. Mais c'est ce qui se passe lorsque nous adorons le Seigneur. Quand elle racontait cela, je pensais à un frère qui lui disait, vous savez comment il a reçu le baptême du Saint-Esprit? Dans son rêve. Il avait tellement soif du Seigneur, il rêvait, et puis dans ce rêve, et puis il a été baptisé, quoi. Donc, c'est extraordinaire. Donc, chacun de nous reçoit le baptême ou des choses du Seigneur de manière unique, de manière spéciale, parce que chacun de nous, on est unique, on est spécial devant le Seigneur. Donc, peut-être d'autres aimeraient vivre la même expérience que Camille, mais le Seigneur a quelque chose de spécial pour toi aussi. Peut-être que ce ne sera pas dans ta chambre, mais qui sait. Mais que tous, nous puissions avoir cette soif de vivre quelque chose avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, il est fidèle et bon. Amen. Et donc, c'est dans la présence du Seigneur, dans l'adoration, qu'on a une conscience d'avoir des dons et un ministère pour le Seigneur. Rappelez-vous dans Actes chapitre 13, ils étaient là en train de jeûner et prier. Et le Seigneur a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le ministère auquel je les ai appelés. Et à partir de là, eh bien, donc cette association est devenue vraiment de manière plus solide. Dernièrement, en fait, en dernier point, je dirais, les obstacles à l'adoration. Alors, en réponse au bienfait de Dieu et à son amour, nous commençons à l'adorer, en le remerciant et en le louant. Dieu nous répond en retour, en nous révélant davantage de sa personne par des actes prodigieux, et nous sommes encore plus encouragés à le louer. Cependant, nous devons reconnaître que notre adoration n'est pas toujours spontanée. Il y a des moments, pour une raison ou une autre, il nous est difficile d'adorer le Seigneur. Des fois, nous sommes impatients d'entrer dans sa présence, de l'adorer. Et une fois commencé, il nous est difficile de nous arrêter. Par contre, en d'autres temps, nous n'avons pas envie. Nous sommes fatigués. Nous avons mal à la tête ou mal à l'estomac. Nous sommes fâchés contre Dieu. Nous doutons même de son existence ou de son amour. Et nous ne voulons pas nous mêler à tous ces gens excités qui crient, qui tapent des mains et qui dansent. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut apprendre à offrir à Dieu des sacrifices de louange. Hébreux 13. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et j'ai découvert ce matin, en relisant ce passage, j'ai relu le verset aussi, les versets 13 et 14. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. C'est pour ça qu'il était question de sacrifice de louange. Il y a l'opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. C'est-à-dire, il y avait un fardeau. Et là, donc c'est à ce moment-là, quand tout semble noir, obscur, Le Seigneur est là, malgré tout. Le ciel s'obscurcit, il fait sombre. Il y a le brouillard. Mais est-ce que le soleil n'existe plus? Non, au-delà des nuages, il y a le soleil. Amen. Au-delà des nuages. Donc, il faut percer les nuages. Un sacrifice, c'est quelque chose que nous offrons à Dieu quand ça fait mal, quand ça nous coûte quelque chose. Mais nous l'offrons à Dieu parce qu'il en est digne. Les chrétiens mûrs, ce sont les chrétiens qui savent adorer Dieu en dépit ou à cause même de leurs sentiments. Car Dieu est fidèle et juste en toutes circonstances. Dieu est fidèle et juste en toutes circonstances. Dieu est fidèle et digne de notre adoration, de nos louanges en toutes circonstances. Amen. Habacuc, chapitre 3, à partir du verset 16. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Écoutez ceci. Car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Amen. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Nous n'avons pas de force en nous-mêmes, mais c'est lui notre force. Amen. Alléluia, quoi qu'il arrive. Et lorsque nous disons Alléluia, quoi qu'il arrive, nous expérimentons la joie et la paix, la guérison physique, spirituel, moral, émotionnel. Nous expérimentons la victoire sur les puissances des ténèbres. Nous expérimentons la sanctification et la puissance. Amen. Dieu est bon tout le temps. Quoi qu'il arrive, il est bon. Et lorsque nous le contemplons, eh bien, nous voyons réellement chaque jour qui il est. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes aussi transformés en sa présence. Amen. Nous sommes aussi transformés en sa présence. Et nous sommes appelés à le louer, à l'adorer pour l'éternité. Comme je l'ai déjà dit une fois ici, il y aura un jour où il n'y aura plus d'évangélisation. Il n'y aura plus de prophétie. Mais la louange et l'adoration, ça va demeurer. Que le Seigneur vous bénisse.